CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, l'émission en jase, ton émission d'actualité du midi. On parle de politique locale, provinciale, fédérale. On analyse des grands dossiers. D'ailleurs, j'avais donné une mission à Pascal CV. J'avais dit, Pascal, va me creuser ça. Qu'est-ce qui se passe avec le dossier santé numérique? D'après moi, ça va pas bien pour le 9 mai. Région de Montréal, région de la Mauricie, projet pilote. Pascal, on va en parler dans l'heure de 13, mais ouais. Ça va vraiment pas bien. C'est ça ce que je comprends. Hein?
Ben oui, puis tu sais, salut Jeff, parce que j'avais la broue dans le toupet ce matin.
C'est ça.
On s'est à peu près pas vu. Puis initialement, à vous, tu m'avais dit, hey, on va prendre des nouvelles, on va voir où on en est, on va informer les gens. Puis moi, chaque jour, je suis arrivée en disant, Jeff, ça va pas bien, j'ai pas de retour. Personne veut me parler chez Santé Québec. Garde, écoute, ils ont peut-être leur raison, mais plus je creusais, plus je me rendais compte que la raison, c'est possiblement le fait qu'on va retarder l'implantation du projet pilote.
Exactement.
Et ou qu'on n'est pas prêt. Et ça, on va s'en parler tantôt.
Oh oui, on s'en parle tantôt avec plaisir. Alicia Despins va être là également, chronique politique municipale aux alentours de 12h45. Et Roger Ferland qui va être présent aussi vers 12h30. Puis je te laisserai commencer avec ceci, Pascal, parce que grosse nouvelle dans le cas de l'ado qui avait été tué en septembre 2024 à Frampton-en-Beauce.
Ah oui, énorme nouvelle. C'est genre de je pense que c'est la première nouvelle où on a été encore plus conscientisé ici à Québec qu'un enfant pouvait mourir suite à des sévices violents physiques issus du crime organisé. Mm-hmm. Et là, deux individus qui ont été arrêtés par la Sûreté du Québec pour cette histoire-là où il y avait le corps d'un jeune qui avait été retrouvé sur le terrain du repère d'un club-école des Hells Angels, oui, en Beauce, à Frampton. C'était Mohamed Yanis Segouani, 14 ans, de Saint-Léonard, à Montréal. T'sais, déjà, on se disait, voyons, un jeune de Montréal rendu ici, retrouvé mort, violenté. Il avait été tué en septembre 2024. Et c'était sur le terrain du repère des Red Devils, au deuxième rang à Frampton. Et ces deux hommes-là qui ont été arrêtés aujourd'hui, c'est vraiment en lien avec la mort de l'adolescent. Alors, c'est des photos qu'on a, c'est un déploiement policier que l'on a. C'est Dawson Cyr, l'éveillé, 24 ans, qui a été arrêté dans le coin de Salaberry de Valleyfield aujourd'hui. Accusation de décharge d'armes à feu, d'incendie criminel sur un bâtiment ou sur un véhicule. Puis il devrait comparaître en journée au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Pour l'autre suspect, il y a 30 ans, j'ai pas de nom pour toi. On va suivre ça. Mais il a été arrêté à l'établissement de détention de Québec. Dossier qui a été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales. Oui, j'ai bien dit, arrêté à l'établissement de détention de Québec.
Ouais.
Donc, c'est déjà quelqu'un qui avait clairement pas une belle jambe ou un CV à présenter à ta mère. Là.
Exactement. Excellente nouvelle, honnêtement, au niveau judiciaire. On en parle avec Roger Ferland aux alentours de 12h30.
Stationnement dans le Vieux-Québec, ça fait un peu écho au dossier qu'on a fait ensemble, Jeff, récemment, sur le mieux vivre du Vieux-Québec. Comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Là, la Ville a sûrement entendu les échos, oui, du travail des journalistes, du nôtre, mais surtout des résidents, parce qu'on libère temporairement des cases pour les résidents. Des places qui seront accessibles les soirs et les fins de semaine, c'était l'une des demandes de ceux à qui j'avais parlé aussi, au moins de libérer ça pendant qu'il n'y a pas de chantier, pendant qu'il n'y a pas de travailleurs. Et bon, on déplorait ce manque de stationnement-là depuis le début des travaux au chantier, depuis mars, particulièrement dans le secteur de la rue des Remparts. Et voilà pourquoi on a décidé d'en débloquer. Ça va être sur la rue des Remparts et ça devrait être disponible pour les résidents les soirs, nuits, fin de semaine de 17h à 7h. Il y a toujours des insatisfactions. Entre autres, rappelle-toi, j'avais parlé à Neil Williams qui était résident, qui disait, tu sais, moi, c'est aussi un enjeu de sécurité pour ma fille de 17 ans. Voilà, c'est une bonne nouvelle dans un dossier pas fini. Et 48e jour de la guerre au Moyen-Orient, parlons-en d'un dossier pas fini. Là, le Liban et Israël vont commencer une trêve de 17 heures. Alors, c'est un cessez-le-feu. Israël et le Liban étaient toujours en train d'être militairement engagés avec des offensives, avec des armements, malgré que les États-Unis et l'Iran s'étaient dit, on va attendre un peu, on va essayer de négocier. Négociations qui ne vont pas très bien.
Non.
Mais voilà qu'ils suivent la danse.
Alors, maintenant, très bonne nouvelle. On passe avec notre nouvelle collaboratrice.
Le caucus. Ce qui se passe autour de nous, ce qui influence nos vies, les vrais enjeux expliqués simplement. Emmanuel Latraverse vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez interagir au 418-971-1021. On va la rejoindre immédiatement, Emmanuel Latraverse. Comment vas-tu, ma chère Emmanuel?
Ça va bien, merci. Heureuse d'être avec vous.
Hey, on est super contents, nous aussi, que tu sois avec nous sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci d'avoir accepté cette mission-là. On se sent choyé aujourd'hui.
Ah, oh, ben c'est moi qui ai choyé d'apprendre à vous connaître puis de parler à vos auditeurs, au contraire.
Excellent. Emmanuel, on commence avec le sondage Palace qui a été dévoilé. Le PQ sous la barre des 30 % pour la première fois depuis longtemps, 29 % Le Parti libéral du Québec en avance à 32 % Ça te dit quoi, ce sondage-là, ce premier sondage de l'ère Christine Fréchette comme première ministre?
Oui, en tout respect, je ne suis pas sûre qu'on peut vraiment l'appeler le premier sondage de l'ère Fréchette, parce que dans les faits, il va falloir laisser le temps à ce qu'elle pose des gestes, qu'elle prenne des décisions, qu'elle assermente son conseil des ministres pour voir comment est-ce que ça percole, je pense, dans l'électorat. Mais c'est certainement un sondage qui vient confirmer l'espèce d'épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête du Parti québécois et qui vient confirmer à quel point les appuis du PQ dans la dernière année étaient dopés par l'absence d'alternative. Monsieur Saint-Pierre Plamondon a été très habile à devenir le refuge de la colère anti-François Legault. Mais la réalité, c'est on ne voit plus, n'évalue plus les chefs de la même façon. C'est pas ce qui est le meilleur chef d'opposition face à François Legault, c'est qui va être le meilleur premier ministre. Et ça change l'évaluation que font les électeurs, d'autant plus que le Parti québécois vient avec un référendum. Puis ça, on ne peut pas lui reprocher d'avoir caché son option dans les dernières années, au contraire. Mais là, les électeurs, je pense, commencent à intégrer dans leur choix les conséquences référendaires d'un vote pour le Parti québécois, ce qui n'était pas le cas quand on était à un an et demi des élections. Puis la réalité, c'est que Charles Millard, vous allez me dire, on ne le connaît pas. Puis la majorité des électeurs ne le connaît pas bien. Mais jusqu'ici, il n'a pas fait de gaffe. Fait qu'il est encore comme une espèce de page, pas une page blanche, mais il est encore un concept qui permet de rêver sans avoir rien à lui reprocher.
Pas de tâche à
Donc,
son
il
dossier.
Il est encore dans sa période de grâce, tu sais.
En effet, Charles Millard est encore dans sa période de grâce. Je suis très d'accord avec toi. On l'écoute cependant. Tu sais, même si on dit que les politiciens ne commentent jamais un sondage, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il l'a commenté par la bande.
Changement démographique. Écoutez, les 18-34 ans, dans le sondage, je sais qu'on ne doit pas commenter les sondages, mais on finit toujours par le faire. Les 18-34 ans, dans le sondage d'hier, le numéro un, c'est nous. Les 55 ans et plus, c'est nous. Donc, le changement démographique, moi, je veux que tout le monde se reconnaisse dans le projet politique du Parti libéral du Québec. Alors, on verra ce que ça va donner. Vous connaissez les appuis chez les francophones. On a encore beaucoup de travail à faire chez les non-francophones. Vous les connaissez, les chiffres sont là. Mais moi, je m'attelle à gagner la confiance de tout le monde qui a le droit de vote au Québec.
Très surpris, moi, Emmanuel, que les 18-34 ans se tournent vers le Parti libéral, parce que dans l'année, on a entendu les jeunes s'intéressent à la souveraineté, les jeunes ont des idées plus de droite conservatrice. Et là, dans ce sondage-là, les 18-34 ans frappent à la porte du Parti libéral.
Oui, mais les 18-34 ans, la réalité, c'est qu'à cause, je pense, de l'incertitude économique, de la difficulté d'accès au logement, à la propriété, etc., ils sont happés par des enjeux très prosaïques, très proches de la réalité. Ils ne sont pas dans les grands concepts de justice sociale, là. Donc ça, je pense que ça change aussi le portrait. Il y a l'avantage aussi que M. Millard, bon, il n'est pas de cette génération-là, là, il n'a pas 34 ans, mais on est avec un leadership plus jeune. Je pense qu'il va falloir laisser le temps à l'électorat de se... Moi, je ne suis pas prête à l'heure où on se parle en ce moment de tirer des conclusions sur l'issue de ces sondages. Je pense que ce que ce sondage et les autres depuis le début de l'année nous disent, c'est que l'électorat, c'est comme des plaques là, tu sais, qui bougent, là, des plaques tectoniques. L'électorat est en train de commencer à évaluer les chefs, est en train de commencer à sous-peser les options, et ça illustre que la course électorale est grande ouverte. C'est et qu'il n'y a rien de coulé dans le béton.
Oui, puis il y a une tendance qu'on semble remarquer, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Emmanuel, là-dessus, mais il y a un genre de nouveau vote qui se fait, qui est beaucoup plus pour ce que ça peut avoir l'air un parti que ce qu'il est foncièrement. Parce qu'on voit une CAQ qui est détestée, qui, en changement de cap avec Christine Fréchette, pourrait reprendre de l'appréciation de la part des électeurs. On voit un parti libéral qui est pointé du doigt, qui est fragmenté, qui est à la fois en chaos total et détesté par les électeurs, remonter de cette manière-là. Il y a des choses qui nous ramènent le dicton « je me souviens pas ».
Ah oui, non, mais je me souviens pas. Je choisis, tu sais, où je peux te citer Martin Saint-Louis, je joue la game qu'on me donne, là, tu sais. C'est un peu ça, là, en ce moment. Moi, je pense que ce que ça nous dit, c'est que les sondages ont beaucoup bougé. Que là, maintenant, c'est pas comme... On n'est pas devant un phénomène de page blanche, mais on remet une partie des compteurs à zéro. Dans le sens où Paul Saint-Pierre Plamondon ne perd pas l'appréciation. Tu sais, tout le travail qu'il a fait pour ramener les souverainistes au bercail, ça reste. Tout le travail de reconstruction qu'a fait le Parti libéral pour se refaire une étoffe, une virginité éthique, ça reste. Parce que je pense que les gens ont classé l'épisode de l'automne comme le problème de Pablo. Et que le Parti libéral a été très habile à essayer de s'isoler un peu de ça. C'est ce que permet l'arrivée d'un nouveau chef. Puis, Mme Fréchette, ben, elle essaye de dire, ben, si vous voulez pas de référendum, puis vous croyez pas, je suis votre bon plan B.
Oui, mais que vous êtes nationaliste, mais que vous voulez pas de référendum, je suis là. C'est un peu ça, tu sais, c'est le plan B des souverainistes qui, finalement, sont pas très chauds à l'idée. En raison de l'incertitude économique.
Oui, mais tu sais, ce qu'il y a de très difficile, c'est que dans une course à cinq, là, comme on va avoir, il n'y aura pas une campagne électorale. Là. Il va en avoir au moins trois, quatre. Là. Il va y avoir une campagne électorale à Montréal, il va y avoir une campagne électorale à Québec, il va y avoir une campagne électorale dans les régions très francophones. Puis ces trois campagnes électorales-là, ça ne sera pas les mêmes, ça ne sera pas les mêmes partis, puis ça ne sera pas les mêmes courses à trois qui vont se dessiner. Là. C'est à ça qu'il faut penser aussi. Puis donc, Mme Fréchette, on va voir comment elle s'en sort. On va voir comment elle réussit à articuler sa vision. Puis si elle est capable ce flambeau de la troisième voie ou bien si Éric Duhaime va être capable de la lui ravir.
S'il est capable de garder le flambeau de la troisième voie ou si Éric Duhaime est capable de lui ravir, juste parce que ça a coupé un peu,
oui,
je voulais
exactement
repréciser les propos d'Emmanuel.
Emmanuel, je te fais entendre Paul Saint-Pierre Plamondon qui a envoyé une lettre ouverte aujourd'hui dans les médias. Il nous revient avec l'histoire, avec Honoré Mercier. Il explique tout à l'heure en conférence de presse pourquoi il l'a fait.
Je parle d'histoire, ça fait réagir, mais il y a des choses qui se répètent, avec certaines nuances, bien sûr, mais il y a des choses qui se répètent et qui, aujourd'hui, je pense, doivent résonner devant une reconfiguration de la politique au Québec où le Parti libéral et la CAQ vont prôner des politiques qui, de mon point de vue et du point de vue de plusieurs centaines de milliers de Québécois, ne sont pas suffisantes ou sont même problématiques sur le plan de notre pérennité linguistique, notre pérennité culturelle.
Emmanuel, je me rappelle d'un temps pas si lointain où Paul Saint-Pierre Plamondon a amené comme débat à l'Assemblée nationale le temps d'écran chez les jeunes, la crise des opioïdes. Ça parlait énormément à la population. Là, quand je regarde le sondage Léger dans la fin de semaine, les trois points les plus importants pour la population, santé, économie, puis le coût de la vie. Ça, il n'en parle pas avec sa lettre ouverte. Il est-tu en train d'essayer de juste parler à ses militants ou essayer de défendre qu'est-ce qu'est le PQ plutôt que de venir parler au cœur des gens?
Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon essaie de se donner les moyens d'élargir la tente du Parti québécois. Parce que c'est ce que démontre l'effritement, mais qui n'est pas catastrophique, là, mais qui est réel là, dans les appuis du PQ, c'est l'inquiétude face à la tenue d'un référendum. Là. C'est ça qui cause la perte d'appui auprès d'un électorat nationaliste. Donc, ce que ça montre, c'est que le plaidoyer qu'a fait jusqu'ici Paul Saint-Pierre Plamondon pour la souveraineté n'est pas suffisant à rassurer l'électorat qui lui est disponible à aller chercher. Et c'est ce qu'il essaie de faire avec sa publicité sur le nationalisme, avec sa lettre ouverte sur le nationalisme aujourd'hui. C'est d'essayer de faire la pédagogie qui est comme qu'on croyait faite en vérité, puis que Mark Carney a comme permis d'effacer, là, c'est toute la pédagogie du Parti québécois de dire, écoutez, avec Ottawa, c'est une centralisation, c'est une perte d'autonomie. Nous n'avons d'autre choix que celui de la souveraineté. Mm-hmm. Nationaliste, vous devez venir chez nous, tu sais.
Mais de s'attaquer, s'attaquer à Mark Carney, qui est très populaire présentement au Québec, c'est un pari risqué.
Oui, est-ce que c'est Mark Carney lui-même qui est populaire ou est-ce que c'est ce qu'incarne son gouvernement? La compétence, la stabilité, le respect à l'international. La réalité, c'est que le Parti québécois souffre du même problème que Pierre Poilievre, c'est qu'il a perdu son épouvantail woke centralisateur de Justin Trudeau, tu sais. Alors maintenant, ça, c'est sûr que ça exige des ajustements. Il ne peut pas reprocher au gouvernement Carney d'être le plus centralisateur de l'histoire du Canada. Il n'a pas posé de gestes précis en ce sens. Il peut amplement reprocher, cependant, à M. Carney d'être désintéressé par les enjeux qui touchent et qui ont un impact sur l'autonomie québécoise, mm-hmm. et de ne pas être à la hauteur de ces attentes-là, parce que M. Carney est un gouvernement avec des œillères en ce moment qui sont strictement... économique et géopolitique, comme s'il n'y avait rien d'autre qui passait. Mais moi, ce qu'on voit en ce moment, c'est un Parti québécois qui est en train d'essayer de s'ajuster au nouvel environnement dans lequel il évolue et auquel il ne pouvait pas... Tu sais, tu peux pas t'ajuster à l'avance, mais je pense qu'il fait bien de le faire. Le risque pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, ce serait de faire comme Pierre Poilievre a fait l'an dernier, de s'entêter, de dire « ma recette a marché pendant 4 ans, elle va continuer pour le dernier droit ». Monsieur Saint-Pierre Plamondon est dans un moment où il doit trouver une façon d'ajuster son discours à cause de l'anxiété économique, mm-hmm. à cause de la donne démographique, des changements qui arrivent, la question, et à cause de cette lune de miel qui se poursuit pour l'instant avec M. Carney. Puis tu sais, avec M. Carney, t'as pas besoin d'avoir une lune de miel où c'est l'amour total. T'as besoin d'avoir un gouvernement qui, jusqu'ici, ne pose pas le geste qui va mener à une rupture. Puis je pense qu'à ce chapitre, M. Carney a réussi à éviter ça.
Il y a quelque chose d'intéressant avec Paul-Saint-Pierre Plamondon aussi, qui est peu souvent discuté, mais nous, on en fait quand même une pièce maîtresse quand on parle de lui. C'est le ton, l'attitude qu'il a. Il est passé d'une attitude sereine, en pleine possession de ses moyens dans des débats, à une attitude un petit peu plus combative, et on la voit justement prendre un peu plus d'ampleur. Est-ce que ça peut nuire dans les relations intergouvernementales entre les paliers, puis aussi dans une suite politique?
Mais tu sais, intergouvernemental, que Paul-Saint-Pierre Plamondon soit tout mouton ou tout lion, les relations seront jamais très bonnes avec Ottawa, premièrement. Là. Je pense qu'on s'entend, là.
Ah oui? Pourquoi? Explique-nous que... ça.
Je sais pas, hein, vraiment, mon Dieu. Mais ce qu'on voit dans les chiffres, c'est qu'il y a une vulnérabilité très claire auprès de l'électorat féminin, qui a, de un, toujours été plus réfractaire à l'idée de souveraineté, mm-hmm. mais où on a vu comme une presque rupture là, avec l'histoire puis l'affrontement avec les artistes et le monde culturel avant Noël. Donc, c'est difficile hein, pour M. Saint-Pierre Plamondon. Il était le jeune premier, l'idéaliste, le plus jeune, le petit nouveau. Tout le monde l'aimait. Puis là, tout d'un coup, il se retrouve presque du jour au lendemain à être le doyen des chefs de parti. Là.
En effet.
Il n'incarne plus la figure de nouveauté. Mm-hmm. Puis ça aussi, ça exige des ajustements importants. Puis c'est pas facile parce qu'on est vraiment dans un monde où l'électorat recherche l'authenticité, tu sais. Puis M. Plamondon a toujours été, puis je le dis sans condescendance et sans mépris, mais il y a un côté dogmatique à son approche politique, là, tu sais. Puis on l'a vu, on trouvait ça adorable quand c'était pour dire qu'il n'allait pas prêter serment au roi. Là, maintenant, comment tu fais que ce côté-là de sa personne ne mette pas en valeur le côté plus rébarbatif du dogmatisme de son approche politique. C'est pas évident comme ajustement, l'espèce de virage qu'il doit réussir à faire dans l'espace public pour ne pas se dénaturer, t'sais, pour garder le meilleur de sa candidature, mais face à des sables mouvants en ce moment-là.
Parce que c'est moi qui se trompe ou son côté dogmatique devient très moralisateur aussi. T'sais, les gens ont l'impression de se faire faire la morale, comme avec sa lettre d'opinion de ce matin.
Oui, c'est surtout que, tu sais, tu peux pas dire aux gens « vous avez pas compris ».
Oui, c'est ça.
Tu sais, moi, je pense que c'est la plus grande... Tu sais, dans les grandes leçons politiques qu'on a apprises dans les dernières années, là, c'est ce qui est arrivé à l'administration Biden, là, tu sais, où les États-Unis avaient une croissance économique en feu, c'était extraordinaire, mais il y avait l'inflation... Et donc, on a une administration Biden qui a passé un an et demi à dire aux gens « Non, mais vous comprenez pas, ça va bien. Ben, » les gens disent « Je m'en ai rien à... »
Mais non, c'est ça, moi, j'en ai
moins. Moi, ça va pas bien.
C'est ça, j'en ai moins dans mes poches, puis je vais aux banques alimentaires. Fait que je comprends que ça va pas bien.
Alors, c'est très périlleux, je pense, pour le mouvement indépendantiste de dire « Vous comprenez pas, Marconi, il est pas bon pour vous. » Mais les gens, c'est pas des débiles, là. Je veux dire, les électeurs Non, mais les gens ont le choix de trouver que Marconi est bon ou pas bon.
Ouais.
Ils ont le choix d'évaluer les candidatures. Alors, comment, quand pendant des années, tu as eu un gouvernement à Ottawa qui te permettait de définir le mouvement souverainiste comme un antidote à un gouvernement fédéral trop dépensier, centralisateur, woke et tout le reste... Puis que là, tout d'un coup, il faut que tu recadres ton discours face à une nouvelle réalité politique. Je pense qu'il faut quand même reconnaître que c'est pas facile et que c'est pas évident pour le Parti québécois de trouver la bonne voie de passage là-dedans. Je pense qu'il fait bien d'essayer différentes choses en espérant qu'il y en a une qui va mieux marcher, mais... Il fait bien d'ajuster son discours parce que de ne pas le faire serait encore plus périlleux pour lui, je crois.
Puis en plus qu'il a perdu Justin Trudeau et le wokiste à Ottawa, ben il a perdu son François et son Pablo aussi qui était facile à attaquer. Fait que il est rendu à trois prises, là.
Ouais, ouais, tu sais, tout d'un coup, t'as plus les mêmes joueurs sur la glace, là, tu sais. Fait qu'il se retrouve avec un premier trio plus solide de l'autre côté, là, tu sais.
En effet. Emmanuel, je veux qu'on termine et vous êtes dans le caucus avec Emmanuel Latendresse. C'est du lundi au jeudi dans l'émission.
T'as dit Latendresse.
Latendresse.
La traverse.
La traverse. Hey, je savais que je ferais cette erreur-là. En plus, je sais pas pourquoi dans ma tête.
Non, mais c'est correct. Mais François Legault, quand il est revenu pour fonder la coalition Avenir Québec, pendant un an et demi, à chaque fois qu'il faisait une entrevue avec moi, il m'appelait la tendresse. Donc, ça ne me blesse pas. Fais-toi en pas, t'es pas le premier.
T'es trop gentil. Emmanuel, la traverse, le caucus, de midi à midi 30 sur les ondes de Boulevard 102.1. On écoute Yves-François Blanchet qui explique la défaite du Bloc québécois dans Terrebonne puis qui nous ramène à un discours qu'on avait entendu il y a de cela 30 ans, la suite d'un référendum perdu.
Est-ce que vous sentez que Terrebonne a changé au fil des ans? La composition démographique, par exemple, a changé, donc que ça a pu vous nuire dans l'élection d'hier?
Oui, comme dans celle de la dernière élection. Dans une série de mandats minoritaires, il est très difficile pour une formation politique comme le Bloc québécois d'aller interpeller un électorat qui ne nous est pas acquis d'emblée. On a le devoir d'aller parler aux gens qui sont issus de l'immigration. Puis c'est pas vrai que parce qu'un immigrant est francophone, il va voter pour le Bloc, là.
Il y a plus de 30 ans, Emmanuel, Jacques Parizeau parlait de l'argent et du vote technique. C'est revenu à l'avant-plan avec l'élection à Terrebonne. Est-ce que c'est signe d'une défaite du mouvement souverainiste qui n'a pas été capable en 30 ans d'intéresser le pays du Québec aux personnes immigrantes?
Non, je suis pas prête à aller là. Je pense que la réalité, c'est que le mouvement souverainiste a essayé de le faire beaucoup. La preuve, c'est que le Bloc québécois sous Gilles Duceppe était extrêmement dans cette mouvance-là. Je me rappelle des campagnes de publicité, « Mon cœur québécois »,« Nous sommes tous québécois », etc. Viviane Barbeau, c'est la présidente du parti. Elle avait été élue, elle était d'origine haïtienne dans l'ancien comté de Papineau. Donc, je pense que moi, mon analyse là-dessus a toujours été qu'une partie substantielle des immigrants arrive, ils n'immigrent pas au Québec au sein de la nation québécoise, ces gens-là. Ils immigrent au Canada. Ils viennent, tu sais, je veux dire, ils viennent dans le pays du Canada, au Québec, où on parle français, puis c'est génial, mais leur appartenance première et leur projet de vie immigrante est au Canada. Et donc, réussir à changer ça, je pense que c'est très difficile. Mais je pense que ce qui est arrivé aussi, c'est que le mouvement souverainiste a beaucoup... tu sais, il y a eu l'opprobre de cette parole du vote ethnique qui a comme empêché aussi le mouvement souverainiste d'aborder ces enjeux-là sur l'espace public depuis 1995, parce qu'on voulait se libérer de la tare d'être accusé d'être raciste, etc. Puis, objectivement, ça a pris M. Legault qui a ramené ces enjeux identitaires-là sous l'angle de la langue. Maintenant, on est rendu dans les valeurs pour repermettre ce discours-là d'avoir lieu. Et donc, maintenant qu'on recommence à discuter et à réfléchir sur la place publique, dans les faits, au sein du mouvement souverainiste, on réfléchit à ça, là. On s'inquiète de ça. Puis, ce que M. Blanchette a fait, je crois, dans mon analyse, c'est qu'il a mis sur la place publique une fracture qui existe déjà au sein du mouvement souverainiste. Mm-hmm. Ruba Gazal, elle est souverainiste.
En effet.
Et elle est du parti qu'on ne peut pas faire l'immigration sans le vote des immigrants. T'sais? Puis il y a toute une autre partie de l'aile souverainiste. Puis je pense que celui qui l'incarne le mieux, puis je vais le dire parce qu'il s'en affiche, il écrit des chroniques là-dessus dans le Journal de Montréal, qui est plus l'aile de Mathieu Bocoté, qui dit « On a essayé, ça n'a pas marché. » Pour réussir à faire l'indépendance, on ne peut que s'en remettre à la majorité historique. Ce qui est difficile, c'est qu'à partir du moment où M. Blanchette met ça en jeu, mais là, ça va forcer M. Saint-Pierre Plamondon à s'embarquer là-dedans.
Ouais.
Puis je pense pas mal certaine qu'il n'avait pas trop envie d'aller là.
C'est ça.
Parce que c'est délicat, c'est litigieux, etc.
Et François Blanchette, il a glissé une coupe de pleure de banane là, sur son chemin pour la prochaine semaine.
Mettons.
Emmanuel La Traverse, merci beaucoup, beaucoup pour ce premier caucus avec
très
nous.
Bien.
Je te souhaite un excellent week-end et on se reparle lundi. Salut.
Très bien, au revoir.
Emmanuel La Traverse qui va être avec nous pour les trois prochaines semaines. Je le rappelle, Antonine Iaccarini qui est en congé de maladie. Donc, c'est Emmanuel qui va prendre la place. Très intéressant comme caucus.
Elle va très bien en passant, Antonine.
Oui.
C'est juste une petite chirurgie.
Exactement.
Mais ça demande du repos. J'ai failli faire la blague. Je me suis abstenue. Ça a failli sortir parce que tu me fais tellement rire.
Vas-y donc.
C'est vrai que des fois, tu vas aller dénommer, mettons.
Oui, oui.
Fait que là, j'ai failli, pour pas qu'elle sente mal, dire « Vous êtes pas unique, madame La Traverse. »
Le pire, là, c'est que je me suis pratiqué ce matin parce que je ne sais pas pourquoi. Moi, Emmanuel, ça a toujours été la tendresse.
Mmh.
Je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours trompé.
Tu as peut-être entendu le premier ministre l'appeler comme ça aussi.
Fait qu'à matin, là, je me pratiquais chez nous, je me disais « Oublie pas, c'est La Traverse. » Puis là, je me l'étais écrit.
Jeff, quel est mon nom?
La Traverse. Pascal Caron-Vézina, Pascal CV, c'est bon. Mais j'ai fait l'erreur, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la radio.
J'aurais dû dire, quel est ton nom?
Ouais, c'est ça. Ah, moi, c'est Jeff Fortin.
Puis celui à qui on parle dans pas long?
C'est Roger Ferland.
Le midi, on en jase. À Boulevard Saint-Denis.